Chapitre 17. Instructions diverses. Une offrande sans défaut corporel. Quant au culte, il ne suffisait pas de conserver une forme extérieure correcte. Les statues et les achères auraient pu être détruites, la nation aurait pu reconnaître la vérité de l'unité de Dieu, et malgré cela, il aurait pu y avoir dans le culte un manque complet de sincérité et de dévouement à Dieu. C'est pourquoi il est dit: tu ne sacrifieras à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni mouton, qui est un défaut corporel, quoi que ce soit de mauvais, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. Verset 1. Ce qui était parfait pouvait seul convenir à l'autel de Dieu et répondre à son cœur. Lui offrir une chose avec un défaut, c'était faire preuve d'un manque total de respect pour lui et du sentiment de ce qui lui était dû. Il faut lire à ce sujet les accents d'indignation de l'Esprit de Dieu par la bouche du prophète Malachie, au chapitre 1, versets 7 à 14. N'y a-t-il pas quelquefois dans notre culte, privé ou public, un déplorable manque de cœur, de sérieux, d'énergie et de sincérité? N'y a-t-il pas beaucoup de choses qui correspondent à l'offrande de ce qui est boiteux ou malade? N'avons-nous pas à nous juger pour notre sécheresse, notre froideur, nos distractions, même à la table du Seigneur? Combien souvent nos corps seuls sont là, tandis que nos cœurs légers et nos pensées vagabondes en sont bien éloignés. Que de fois nos lèvres profèrent des paroles qui ne sont pas la vraie expression de ce qu'il y a dans nos cœurs. Deux ou trois témoins. S'il se trouve au milieu de toi dans une de tes portes, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui aille et serve d'autres dieux, et s'incline devant eux, soit devant le soleil, ou devant la lune, ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et que cela t'ait été rapporté, et que tu l'aies entendu, alors tu rechercheras bien. Et si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été commise en Israël, tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui auront fait cette mauvaise chose, l'homme ou la femme, et tu les assommeras de pierres, et ils mourront. Sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins, celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Versets 2 à 7. Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner le grand principe exposé dans ce passage. Savoir qu'il importe absolument d'avoir un témoignage suffisant avant de porter un jugement. C'est une règle invariable dans le gouvernement divin. Nous la retrouvons partout dans l'Écriture. Nous ne devrions jamais nous permettre de former un jugement sans le témoignage de deux ou trois témoins, et encore moins d'agir d'après un jugement ainsi formé. Un seul témoin ne suffit pas pour arriver à une conclusion, quelque digne de foi qu'il puisse être. Nous pouvons être convaincus en nous-mêmes qu'une chose est vraie, parce qu'elle est affirmée par une personne en qui nous avons une entière confiance, mais Dieu est plus sage que nous. Il se peut que ce témoin soit tout à fait droit et sincère, mais nous devons nous en tenir à la règle divine. Sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, la chose sera établie. Deutéronome 19, verset 15. L'importance de cette règle est immense dans tous les cas de discipline et dans tous ceux où se trouve impliquée la réputation de qui que ce soit. Avant d'en arriver à une conclusion ou de porter un jugement, une assemblée doit avoir des évidences suffisantes. Si elle ne se montre pas, que tous s'attendent à Dieu avec patience et confiance. Il suppléera certainement à ce qui manque. Si, par exemple, il se trouve un mal moral ou une erreur de doctrine dans une assemblée de chrétiens, que cela ne soit connu que d'un seul, mais qu'il en soit parfaitement convaincu, que doit-il faire? Attendre que Dieu fournisse d'autres témoins. Agir sans cela, c'est enfreindre un principe divin maintes fois répété dans la parole de Dieu avec toute la clarté possible. L'unique témoin ne doit pas se sentir froissé ou peiné parce que son témoignage n'est pas pris en considération. Il ne doit pas s'attendre à ce qu'il le soit, et même il ne doit pas se présenter comme témoin avant de pouvoir ajouter à son témoignage celui d'un ou de deux autres. Et l'Assemblée ne doit pas être jugée indifférente ou endormie parce qu'elle refuse d'agir sur le témoignage d'un seul homme. Le faire serait désobéir ouvertement au commandement divin. Ce grand principe pratique ne se borne pas au cas de discipline d'assemblée. Il est d'une application générale. Nous ne devrions jamais nous laisser aller à porter un jugement sur une personne sans avoir la mesure d'évidence établie de Dieu. Si elle nous manque, notre devoir est d'attendre. Et s'il y a nécessité pour nous de juger, Dieu nous fournira en son temps l'évidence nécessaire. Hélas, nous sommes tous portés à juger sans réfléchir, à nous laisser guider par nos impressions, à nous laisser aller à des soupçons et à des préventions sans fondement. Soyons sur nos gardes contre tout cela. Nous avons besoin de calme, de sérieux et de sang-froid lorsque nous formons et exprimons notre jugement sur les hommes et les choses. Sur les hommes en particulier, car nous pouvons causer un grand tort à un ami, à un frère ou à un voisin, en exprimant une fausse impression ou une accusation non fondée. Nous devenons alors l'instrument par lequel sa réputation est attaquée. Cela est coupable aux yeux de Dieu. Et nous devons y veiller pour nous et le reprendre chez nos frères, lorsque nous avons l'occasion de le faire. Si devant nous, une personne en accuse une autre, en son absence, nous devrions insister pour qu'elle prouve ou retire son accusation. Soyons en garde contre la médisance. Avant de quitter ce sujet, nous ferons remarquer que la Bible nous fournit plus d'un exemple où un homme juste a été condamné et où cependant on a suivi en apparence la règle énoncée dans ce chapitre. Voyez le cas de Naboth en 1 Roi 21, le cas d'Étienne en Actes 6 et 7, et par-dessus tout, le cas du seul homme parfait qui ait jamais marché sur cette terre. Hélas, les hommes peuvent avoir l'air de faire attention à la lettre des préceptes de l'Écriture et citer ces paroles pour camoufler l'injustice la plus flagrante. Deux témoins accusèrent Naboth d'avoir maudit Dieu et le roi. Et ce fidèle Israélite fut dépouillé de son héritage et mis à mort sur le témoignage de deux menteurs soudoyés par les ordres de Jézabel. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, fut lapidé sous prétexte d'avoir proféré des paroles blasphématoires sur la déposition de faux témoins. Et cette déposition a été acceptée par les chefs religieux qui, sans aucun doute, pouvaient s'appuyer sur l'autorité du chapitre 17 du Deutéronome. Mais tout cela, en montrant ce qu'est l'homme et la religion humaine sans la conscience, n'affecte en rien la règle morale posée dans notre chapitre. Procès et jugement. Lorsqu'une affaire sera pour toi trop difficile à juger, entre sang et sang, entre cause et cause, et entre coup et coup, des cas de dispute dans tes portes, alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu viendras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers le juge qu'il y aura en ces jours-là, et tu rechercheras, et ils te déclareront la sentence du jugement. Et tu agiras conformément à la sentence qu'ils t'auront déclarée, de ce lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils t'auront annoncé, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence qu'ils t'auront déclarée. Et l'homme qui agira avec fierté, n'écoutant point le sacrificateur qui se tiendra là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, cet homme-là mourra, et tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Et tout le peuple l'entendra et craindra et n'agira plus avec fierté. Versets 8 à 13. Dieu lui-même pourvoit ici à tout ce qui était nécessaire pour régler d'une manière parfaite tous les différends qui pouvaient surgir dans l'assemblée d'Israël. Il devait être porté en la présence de Dieu, au lieu qu'il avait choisi et décidé par les autorités que lui-même avait instituées. Tous les sujets de controverse devaient être définitivement réglés par le jugement de Dieu, exprimé par le sacrificateur, ou par le juge établi de Dieu dans ce but. C'était donc uniquement une affaire d'autorité divine. Il ne s'agissait pas qu'un homme s'élève par sa volonté propre contre un autre. Chacun devait soumettre sa cause à un tribunal divin et s'incliner devant sa décision. il ne pouvait y avoir de recours, vu qu'il n'y avait pas de tribunal plus élevé. Le sacrificateur ou le juge, établi de Dieu, parlait comme étant l'oracle de Dieu, et les deux parties devaient se soumettre sans murmure à sa décision. Il est bien évident qu'aucun Israélite n'aurait jamais eu l'idée de porter sa cause devant un tribunal des gentils. Cela aurait été une insulte faite à l'Éternel lui-même, qui était au milieu de l'assemblée pour juger toutes les causes qui pouvaient se présenter. Il était entièrement suffisant pour cela. Et comment les chrétiens doivent-ils décider les cas de difficulté entre eux? Est-ce en prenant le monde pour juge? N'y a-t-il pas dans l'assemblée de Dieu tout ce qu'il faut pour régler les différends qui pourraient s'élever? Écoutez ce que l'apôtre inspiré dit à cet égard à l'assemblée de Corinthe et à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. Voir 1 Corinthiens 1, verset 2. Et par conséquent, à tous les vrais chrétiens maintenant. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a une affaire avec un autre, ose-t-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez ceux-là pour juges, qui sont peu estimés dans l'assemblée. Je parle pour vous faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères. Mais un frère entre en procès avec un frère, et cela devant les incrédules. C'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt les injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort? Mais vous, vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 9. Nous avons ici des instructions divines pour l'Église dans tous les temps. Il est vrai, hélas, que l'Église n'est plus ce qu'elle était lorsque les lignes ci-dessus furent écrites par l'apôtre inspiré. Tout est malheureusement bien changé, mais l'Écriture ne peut être anéantie. Et par conséquent, ce qui était une faute au premier siècle ne saurait être bien aujourd'hui. Il peut y avoir plus de difficultés à mettre en pratique les principes divins, mais nous ne devons jamais consentir à les abandonner. Partout où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur Jésus, en quelque faiblesse que ce soit, s'ils sont réellement dans l'humilité et la dépendance de Dieu, la sagesse spirituelle leur sera donnée pour juger tout ce qui pourrait s'élever entre des frères. Ils peuvent compter sur cette sagesse divine pour les guider dans le règlement de toute question ou différend, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à un tribunal du monde. Un frère ne doit pas entrer en procès avec un frère devant les incrédules. Voilà qui est clair et net. Il y a pour l'Assemblée des ressources en Christ, la tête et le Seigneur, pour le règlement de toutes les questions possibles. Y a-t-il une seule question que notre Seigneur ne puisse résoudre? Avons-nous besoin d'habileté naturelle, de sagesse mondaine et de grande science quand nous avons Christ? Tout ce qu'il nous faut, c'est simplement de faire usage des ressources que nous avons en Christ. Nous trouverons certainement au lieu où il rassemble les siens autour de lui la sagesse sacerdotale nécessaire pour juger toutes les questions qui peuvent s'élever entre des frères. Rappelons-nous qu'il y a des ressources de sagesse, de grâce, de puissance et de dons spirituels mises en réserve pour l'Église en Christ, son chef, et qui sont toujours à la disposition de ceux qui ont assez de foi pour en faire usage. Il n'y a pas de limite dans ces ressources. Directive pour un roi. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu le posséderas et y habiteras, et que tu diras « J'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira, tu établiras sur toi un roi d'entre tes frères, tu ne pourras pas établir sur toi un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, il n'aura pas une multitude de chevaux, et il ne fera pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus jamais par ce chemin-là. Et il n'aura pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et il ne s'amassera pas beaucoup d'argent et d'or. Versets 14 à 17. Les trois choses que le roi ne devait pas faire, le plus glorieux roi d'Israël les a faites. Et le roi Salomon fit une flotte à Etsion-Guéber, qui est près d'Elot, sur le bord de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur la flotte ses serviteurs, des matelots connaissant la mer, avec les serviteurs de Salomon. Et ils allèrent à Ophir, et y prirent de l'or, 420 talents, et les apportèrent au roi Salomon. Et Hiram envoya au roi 120 talents d'or. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre ce qui lui venait des commerçants ambulants et du trafic des marchands et de tous les rois de l'Arabie et des gouverneurs du pays. Et plus loin, et le roi fit que l'argent dans Jérusalem était comme les pierres. Et quant aux chevaux de Salomon, il les tirait d'Égypte. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et il avait 700 femmes princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. 1 Roi 9, 10 et 11. Quelle triste histoire! Voilà un homme doué de sagesse au-dessus de tous, entouré de bénédictions, d'honneurs et de privilèges extraordinaires. Rien ne lui manquait de ce que ce monde peut donner pour contribuer au bonheur terrestre. Et non seulement cela, mais tout le début de sa vie pouvait donner les meilleures espérances quant à son caractère personnel et royal. Mais, hélas, il faillit de la manière la plus déplorable sur tous les points que la loi de son Dieu avait définis si clairement. Il lui avait été dit de ne pas s'amasser beaucoup d'argent ni beaucoup d'or, et cependant il le fit. Il lui avait été dit de ne pas retourner en Égypte pour faire venir beaucoup de chevaux, et cependant il en fit chercher une multitude. Il lui avait été dit de ne pas prendre plusieurs femmes, et il en eut un millier. C'est elles qui corrompirent son cœur. Tel est l'homme. Comment expliquer la triste et humiliante chute de Salomon? Les versets qui terminent notre chapitre nous fournissent la réponse. Et il arrivera, lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites. Et il l'aura auprès de lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à garder toutes les paroles de cette loi et ses statuts pour les faire, en sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Versets 18 à 20. Si Salomon avait fait attention à ces paroles, l'histoire de sa vie aurait été bien différente. Nous ne voyons nulle part qu'il ait écrit un double de la loi, et à supposer qu'il l'ait fait, il n'y conforma assurément pas sa vie. Bien au contraire, il s'en détourna ouvertement et fit les choses même qui lui étaient défendues. Toute la ruine et tous les malheurs qui succédèrent si rapidement aux splendeurs du règne de Salomon n'ont pas d'autre cause que la négligence de la parole de Dieu. Combien cela est solennel pour nous aujourd'hui. La négligence de la parole de Dieu est la source de tout le mal, de toutes les erreurs et de toutes les divisions qui ont été et qui sont dans le monde. Le seul vrai et souverain remède à notre triste condition actuelle est de retourner, chacun et chacune en particulier, à la simple autorité de la parole de Dieu. Que chacun considère combien il s'est éloigné de l'enseignement simple et positif du Nouveau Testament, des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Humilions-nous sous la puissante main de notre Dieu à cause de notre péché commun. Dans sa grâce, il nous restaurera et nous bénira.